Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 18 août 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sebudia. Tout d'abord les titres. Fin aujourd'hui au Ghana de la réunion des chefs d'état-major des armées ouest-africaines sur une éventuelle intervention armée au Niger. Les casques bleus de l'ONU partent d'un troisième camp au Mali. Au Tchad, visite du président Mahamat Idriss Déby Itno dans le nord après une attaque de position de l'armée dans la région. Des milliers de personnes fuient les feux de forêt dans le nord du Canada. L'ex-président américain Donald Trump propose 2026 comme date pour son procès fédéral à Washington sur l'élection de 2020. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Débuté hier à Accra, au Ghana, la réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO se termine aujourd'hui. Ils discutent d'une éventuelle intervention armée au Niger après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
À l'ouverture hier de cette réunion des chefs militaires des pays membres de la CEDEAO, le général Christopher Ogbabin Moussa, chef d'état-major de la défense du Nigeria, est revenu sur leur rôle.
Notre tâche en tant que comité des chefs d'état-major des États de la CEDEAO est de veiller à ce que nos réponses à cette crise ne soient pas motivées par la peur, mais par les principes de la justice, du respect des droits de l'homme et de l'engagement inébranlable en faveur de l'état de droit.
L'option diplomatique est toujours privilégiée par la CEDEAO qui soutient toutefois qu'une éventuelle opération armée reste sur la table. Abdel Fattah Moussa, commissaire de la CEDEAO pour les affaires politiques, la paix et la sécurité.
La balle est dans la main de la junte. Le CNSP au Niger, s'il se retire du bord du gouffre, l'option militaire ne sera pas nécessaire. Mais nous voulons les avertir que toutes les options sont sur la table et qu'aucune option n'est hors de la table.
Les États-Unis, qui demandent un règlement pacifique de la crise, ont annoncé qu'une nouvelle ambassadrice, Kathleen Fitzgibbon, va s'installer bientôt à Niamey. Ce n'est pas le signe d'un changement de politique des États-Unis, mais de leur implication continue pour trouver une solution diplomatique, précise un porte-parole du département d'État. Cette rencontre intervient deux jours après des attaques djihadistes dans la région de Tillaberi, dans la zone des trois frontières avec le Mali et le Burkina Faso. 17 soldats et une trentaine de civils ont été tués.
La MUNISMA a annoncé jeudi le retrait de ses casques bleus d'un troisième camp du Mali conformément à son plan de départ complet de ce pays du Sahel au 31 décembre 2023. Selon elle, un convoi transportant des casques bleus et du matériel depuis son camp dans la ville de Gundam, dans la région de Tombouctou, dans le cadre du processus de retrait, est arrivé sans incident à la ville de Tombouctou mercredi. La MUNISMA applique la décision de retrait prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de la junte au pouvoir à Bamako. Ce retrait implique quelque 11 600 soldats et 1 500 policiers de dizaines de nationalités et répartis sur 13 camps. La MUNISMA a été déployée au Mali depuis 2013. Au Sénégal, les avocats de l'opposant Ousmane Sonko ont indiqué hier qu'il a été admis dans un service de réanimation à l'hôpital alors qu'il est détenu depuis fin juillet. M. Sonko a entamé une grève de la faim le 30 juillet. Les autorités ont mis en doute le fait qu'il observe strictement cette grève. Le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu à Bardaï, à plus de 1000 km au nord de N'Djamena, après une attaque de position de l'armée dans la région. Le point avec Nani Talani.
Bramamat, porte-parole de la présidence, dit dans un communiqué que l'objectif de cette visite est de galvaniser les troupes et renforcer le dispositif après l'attaque de positions militaires par des éléments se réclamant du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République. Ce mouvement rebelle, actif dans le nord du Tchad, a affirmé que dans la nuit du 9 au 10 août, ces hommes ont effectué un assaut dans la zone de Our et Kouri, qui sont situées à une centaine de kilomètres de Bardaï, où M. Déby est en visite. Ces attaques contre trois positions tchadiennes ont fait plusieurs morts, dont deux parmi les rebelles, selon Choueb Adoum, chargé des relations extérieures du mouvement rebelle. Il affirme avoir capturé vivants 23 soldats, détruit 9 véhicules blindés et dérobé divers équipements militaires. Début juin, des combats ont opposé pendant une semaine l'armée tchadienne à la rébellion, donnant lieu à des bilans très contradictoires dans le massif du Tibesti.
Le président de la Chine, Xi Jinping, se rendra la semaine prochaine en Afrique du Sud où il participera à Johannesburg au 15e sommet des BRICS, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères ce vendredi, disant que M. Xi fera une visite d'État en Afrique du Sud du 21 au 24 août.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et si aux États-Unis, la défense de Donald Trump a proposé hier que son procès pour ses tentatives présumées frauduleuses d'inverser le résultat de l'élection de 2020 se tienne en avril 2026, soit bien après la présidentielle de novembre 2024. Précision de Mohamed Humfa.
La juge Tania Chotkan, qui présidera les débats, a fixé au 28 août une audience pour déterminer la date du procès et avait demandé aux deux parties leur proposition avant de trancher. L'intérêt du public repose dans un procès juste et équitable et non dans la précipitation d'un jugement, ont défendu jeudi les avocats de Donald Trump dans leur proposition de calendrier. Selon eux, le seul examen des pièces constituant le dossier pourrait prendre plusieurs années. La date d'avril 2026, soit dans plus de 2 ans et demi, leur permettrait de préparer la juste défense de leurs clients et de ne pas interférer avec les autres poursuites visant l'ex-président, plaide-t-il. Il y a une semaine, le procureur spécial Jack Smith avait proposé que le procès de l'ex-président américain débute le 2 janvier 2024, estimant qu'il ne devrait pas durer plus de 4 à 6 semaines. La date du 2 janvier prochain représente un équilibre adéquat entre le droit du prévenu à préparer sa défense et le fort intérêt public à un procès rapide dans une affaire aussi emblématique dans laquelle un ancien président est accusé d'avoir sapé les fondements des institutions fédérales, avait fait valoir Jack Smith dans son argumentaire.
Des milliers de personnes se sont ruées vers le petit aéroport de Yellowknife jeudi, tandis qu'une longue file de voitures empruntait la seule autoroute fuyant les feux de forêt qui menacent l'une des plus grandes villes du Grand Nord canadien. Le point avec Alexandrine Rolognon.
Plus de 20 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la capitale des territoires du Nord-Ouest, menacée par un important brasier. Nous sommes tous fatigués du mot sans précédent, mais il n'y a pas d'autre façon de décrire la situation, a déclaré la première ministre du territoire arctique, Caroline Cochrane. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent des véhicules roulant à travers l'épaisse fumée, guidés par des véhicules de patrouille, alors que les résidents tentent de rejoindre la province voisine de l'Alberta, où plusieurs centres d'accueil ont été mis en place. La maire de Yellowknife, Rebecca Alty, a mis en garde les automobilistes contre les flammes qui se rapprochent dangereusement des rares autoroutes qui traversent ce vaste territoire canadien. Plusieurs vols commerciaux et militaires vers le sud sont prévus dans le tout petit aéroport de Yellowknife où de nombreux habitants se sont précipités. Des quartiers entiers ont été abandonnés sous un ciel enflammé et presque apocalyptique.
La Russie a dit avoir déjoué jeudi soir une attaque ukrainienne menée avec un drone naval contre sa flotte présente en mer Noire, où le nombre d'affrontements s'est accru depuis le retrait de Moscou de l'accord céréalier mi-juillet. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait qualifié d'étape importante le départ d'un premier cargo du port d'Odessa en mer Noire dans un défi lancé à la Russie qui menace de couler de tels navires depuis son retrait de l'accord céréalier. Par ailleurs, le maire de la capitale russe a annoncé tôt ce vendredi que la défense aérienne russe a détruit à Moscou un drone qui n'a fait ni dégâts ni victimes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a assuré jeudi que son pays œuvrait pour l'unité du monde musulman à l'occasion de son premier déplacement officiel en Arabie Saoudite depuis le rapprochement diplomatique de ces deux puissances rivales du Moyen-Orient. L'Iran, pays à majorité chiite, et l'Arabie Saoudite, à majorité sunnite, entretiennent des relations tendues depuis des décennies. La Minute Éco, Eric Manirakidza.
Le vol de câbles continue de perturber les chemins de fer en Afrique du Sud, notamment le transport de matières premières. La compagnie publique du Rail a appelé jeudi le gouvernement à renforcer la sécurité et la justice à sévir contre les malfaiteurs. Ces vols coûtent l'équivalent de près de 2,8 milliards de dollars par an selon l'opérateur. Plus de 1500 km de câbles ont été dérobés l'an dernier. Pour lutter contre ce pillage des câbles électriques afin d'en extraire le cuivre, le gouvernement a interdit à la fin de l'année dernière l'exportation de ferraille. Le gouvernement d'unité nationale libyen basé à Tripoli et reconnu par l'ONU a démenti jeudi avoir cédé les droits sur un important port civil ou autorisé son utilisation comme base militaire par des forces étrangères. Il a fait cette déclaration au port d'Alcoms avec à ses côtés le chef d'état-major de la marine libyenne et le directeur de l'autorité des ports et du transport maritime. Le porte-parole du gouvernement réagissait aux protestations de centaines d'habitants de cette ville côtière qui accusent le gouvernement de vouloir céder une partie de ce port civil au profit de la Turquie. Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir demandé la création d'un groupe spécial dans le cadre de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique afin de régler son contentieux avec le Mexique concernant des produits agricoles transgéniques. Washington s'élève contre les mesures mexicaines visant la restriction en 2024 des importations de maïs OGM et interdisant le très contesté herbicide glyphosate.
Merci Eric. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Athlétisme pour commencer, suspension levée pour Toby Amoussan.
Oui, la Nigériane, championne du monde du 100 mètres haies, a vu sa suspension provisoire levée par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Toby Amoussan avait été suspendu provisoirement en juillet pour 3 manquements à ses obligations de localisation antidopage en moins d'1 an. Elle pourra donc prendre part aux mondiaux de l'athlétisme prévus à Budapest en Hongrie du 19 au 27 août. Toby Amoussan pourra finalement s'aligner mardi en série du 100 mètres haies, le tribunal disciplinaire ayant considéré que l'athlète n'a pas commis de violation à la réglementation antidopage relative à ses manquements supposés. En 2022, Amoussan a conquis le titre de champion du monde du 100 mètres haies après avoir établi un nouveau record du monde de la discipline en 12 secondes 12 en demi-finale.
Marc Otieno, lui, vise un retour aux Jeux Olympiques après une interdiction pour dopage.
Le sprinter Kenya a déclaré qu'il est prêt à rattraper le temps perdu aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Marc Otieno a été contrôlé positif et suspendu des Jeux de Tokyo en 2021, quelques instants avant sa participation aux séries du 100 mètres. La longue absence a sans doute affecté mes performances, mais je suis heureux d'être de retour, a déclaré l'athlète de 30 ans, ajoutant que sa priorité est de se qualifier pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Près de 70 athlètes kenyans, principalement des coureurs de fond, ont été bannis au cours des 5 dernières années pour des infractions liées au dopage.
Le sélectionneur de l'équipe féminine américaine a démissionné.
L'US Soccer et Vlatko Andonovski se séparent d'un commun accord, peut-on lire dans un communiqué, de la Fédération américaine de football. Andonovski, 46 ans, était à la tête de la Team USA depuis octobre 2019. L'intérim sera assuré par Tuila Kilgori, qui a œuvré comme adjointe au cours des 18 derniers mois, a indiqué la Fédération américaine. Ça a été l'honneur de ma vie d'entraîner les joueuses talentueuses et travailleuses de l'équipe américaine au cours des 4 dernières années, a déclaré Vlatko Andonovski dans le même communiqué, fier des progrès réalisés malgré le résultat de la Coupe du Monde et l'élimination en huitième. Sous sa conduite, les Américains ont remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 après avoir été battus par le Canada en demi-finale. Double tenante du titre, elles ont été éliminées dès les huitièmes de finale du mondial féminin.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Maintenir, requalifier ou lever l'état de siège en cours dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 2 ans, la table ronde convoquée durant 3 jours à Kinshasa n'a pas pu répondre à la question suite à des débats houleux. Eddie Sango a joint à Kinshasa Daniel Fouraouna, un député qui a signé une pétition exigeant la fin de cette mesure exceptionnelle.
La majorité des participants à ces assises ont opté pour la levée pure et simple de cette mesure exceptionnelle appelée l'état de siège, étant donné que la dite mesure n'a pas atteint l'objectif lui assigné, celui de rétablir la paix, la sécurité, l'ordre public et l'autorité de l'État sur l'ensemble des 2 provinces. La province de Ituri, celle du Nord Kivu, lesquelles provinces étaient concernées par cette mesure exceptionnelle.
Mais entendre les discours du Premier ministre qui a clôturé ces assises, c'était plutôt 50-50 et que maintenant il faudrait attendre la décision du président de la République pour la levée ou le maintien de cette mesure exceptionnelle qui est l'état de siège.
Le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, est un politique. Étant donné que la décision ne lui revient pas directement, et il ne peut pas se prononcer devant l'Assemblée. Et encore, il n'a pas vraiment pris part à ces assises. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a la liste des présents, il y a le nombre de gens qui ont été intéressés par telle ou telle thématique. Il y a d'ailleurs ceux-là qui étaient envoyés dans la thématique maintien ou réqualification qui ont su quitter leur commission pour rejoindre la commission de levée de l'état de siège afin de parler les argumentaires, les causes qui doivent, n'est-ce pas, militer, qui doivent éclairer la lanterne du président de la République pour lui permettre de prendre finalement une mesure qui est entendue par l'ensemble de la population.
Maintenant, que va-t-il se passer? Les affrontements et l'insécurité continuent à se dérouler dans l'est de la République, dans ces 2 provinces. Faut-il vraiment lever? Faut-il maintenir? Faut-il réqualifier? Que va-t-il se passer? C'est le chef de l'État qui va bien sûr prendre la décision.
La Constitution de la République et les différentes lois de la République règle toutes ces questions. D'abord, la qualification est anticonstitutionnelle. C'est illégal parce qu'il n'y a aucune disposition, ni dans la Constitution, ni dans les lois de la République, qui parle, n'est-ce pas, de la qualification d'une mesure exceptionnelle comme état de siège.
2 ans et 3 mois d'état de siège, quel bilan avez-vous fait de cette mesure exceptionnelle?
Le bilan, il est mitigé pour ne pas dire catastrophique, parce qu'en fait, les autorités envoyées pour administrer ou animer cette mesure exceptionnelle se sont focalisées plus sur les aspects administratifs et financiers. La maximisation des recettes de la province et la gestion de cette recette, bien évidemment, à travers quelques actions sociales ou de développement, alors que dans l'esprit de la lettre ou dans l'esprit de la lettre de l'ordonnance, il était question que ces autorités militaires aillent là-bas pour imposer la paix de gré ou de force.
C'était joint à Kinshasa, Daniel Fouraouna.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Les professionnels du monde sportif et les leaders politiques exhortent les dirigeants africains à avoir une vision élargie pour exploiter toutes les opportunités de développement que possède le continent. La requête a été faite à Kigali, théâtre du Festival des Jeunes, organisé par Giant of Africa. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Ce sont des milliers de jeunes Africains qui vont passer une semaine à Kigali pour le festival organisé par Giants of Africa avec diverses activités de divertissement, notamment des rencontres de basketball. S'exprimant devant ces jeunes, le président rwandais Paul Kagame a exhorté les Africains à se sentir comme des géants, à agir comme tels et ne jamais accepter la médiocrité.
C'est comme si nous sommes derrière tout le monde en termes de développement de toutes sortes, y compris en sport. Cela alors que nous avons plein de choses qui devraient nous placer devant n'importe qui. Nous avons tout.
Ce sentiment du président Kagame est partagé par Masai Ujiri, qui préside le club américain de Toronto Raptors, qui ajoute que les pays africains devraient apprendre à générer des richesses à travers le sport.
You call our arena now and you want to book a concert or you want to book.
Si vous appelez à notre arena maintenant pour faire une réservation d'un concert, par exemple, ou autre chose, on vous dit, revenez en 2026 ou en 2027. On vous donne les dates. C'est comme ça que les affaires priment, les conférences, les événements sportifs, les concerts, toutes ces choses génèrent de l'argent. La nourriture et la boisson tout autour, c'est incroyable. Le service hospitalier, tout ça, on n'en a pas en Afrique alors que nous avons les gens et les talents. Je me dis que le plus grand atout de l'Afrique, ce sont les talents. Si nous avons les talents et l'éducation, pourquoi ne pas avoir une vision pour penser à tout ça? Pourquoi continuer à négliger le sport?
Si l'Afrique est un continent jeune, cela doit lui permettre d'accomplir de grandes réalisations et jouer un rôle beaucoup plus remarquable dans le concert des nations, estime Amadou Galofa, le président de la Ligue africaine de basketball.
We are going to get our fair share on the global sports.
Nous allons avoir notre juste part sur le marché mondial du sport et des divertissements qui contribuent à 2% du produit intérieur brut mondial, mais l'Afrique est nulle part dans tout cela. Nous allons le changer. De tels événements continueront à avoir lieu, nous créerons des talents qui développeront cette industrie, créer des emplois et faire revenir ici en Afrique tous les jeunes du monde entier.
Le festival Giant of Africa, qui se tient au Rwanda jusqu'au 19 août courant, connaît la participation des jeunes venant de 16 pays du continent africain. Jean Damasceni Manichimé pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Burkina Faso, un festival de musique fait la promotion de l'environnement. La première édition s'est tenue dans la capitale burkinabé. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Des musiciens sur scène. Nous sommes dans un quartier populaire de Ouagadougou, Gonguin. Protection de l'environnement dans un contexte sécuritaire difficile, défi et perspective. Le Festival international de musique pour l'environnement s'est tenu sous ce thème. Des musiciens qui se sont succédés sur scène ont tous reconnu qu'il faut travailler à protéger l'environnement. Zedmour, musicien invité.
C'est un festival qui mérite vraiment d'être soutenu. Parce que quand on parle de l'environnement, ça parle de beaucoup de choses. Parce que une fois qu'on protège l'environnement, on protège les arbres, ça amène à beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Puis sans l'arbre, l'homme ne peut pas vivre.
Guetta Wende Isaac, musicien ayant participé à la soirée.
Moi, je trouve que c'est une bonne initiative qu'on doit soutenir. Et surtout, quand on parle de l'environnement, on parle de la vie. L'arbre et l'humain, c'est l'harmonie complète. Notre défunt capitaine avait dit que un homme, un arbre. Si un citoyen burkinabé plante un arbre, on aura plus de 20 millions d'arbres au Burkina Faso. Et je trouve que ça va être meilleur dans la vie.
Le festival s'est tenu dans des conditions difficiles. Le promoteur a déploré l'absence des partenaires. Ibrahim Simporedi Rastimpos, promoteur du Festival international de musique pour l'environnement.
Plus qu'une réussite, je ne m'attendais même pas à cet engouement. Il n'y a pas eu de partenaires qui ont contribué pour cette première édition. Donc nous avons géré les choses avec nos moyens personnels. Alors réunir tout ce public, je trouve déjà une satisfaction. Et nous pensons que l'édition à venir, les choses seront un peu plus dimensionnelles.
Les promoteurs se penchent sur la prochaine édition, la deuxième prévue l'an prochain, espérant avoir davantage de soutien. Bien avant le festival, les organisateurs ont procédé à un reboisement. Plus de 100 plans ont été mis sous terre. Le festival a aussi un volet humanitaire. Dans ce sens, les festivaliers ont partagé un repas communautaire avec des déplacés, eux qui traversent des moments difficiles du fait de l'insécurité. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans C'est ton genre, super fast, super sonic, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref. Les tous dans RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1-703. 350 37 31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique super rapide.
Ici aux États-Unis, un an après la promulgation de la loi sur la réduction de l'inflation, le président Joe Biden a mis le cap sur le Wisconsin. Malgré ses victoires législatives et l'amélioration des indicateurs économiques, M. Biden est toujours bas dans les sondages sur le plan économique. Patsy Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, nous en dit plus. Le récit est de Jacques Aristide.
Les prix sont toujours élevés dans les supermarchés américains, alors que le taux d'inflation est inférieur à celui de l'année dernière. À 3,5%, le chômage est jugé faible, tandis que les salaires augmentent. Pour le président Joe Biden, ces améliorations sont dues au Bidenomics.
The strongest economy in the world.
L'économie la plus forte du monde, le plus haut niveau de satisfaction au travail depuis 36 ans, notre taux d'inflation a baissé au plus bas parmi les grandes nations économiques du monde.
Mais ce n'est pas l'avis de la plupart des Américains d'après le dernier sondage Ipsos. 56% d'entre eux désapprouvent la gestion de l'économie par le président démocrate. 69%, dont plus de la moitié des démocrates, affirment que l'économie est pire maintenant qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Mallory Newell, la vice-présidente des affaires publiques chez Ipsos.
Le président n'arrive pas vraiment à se connecter avec les gens pour communiquer certaines grandes victoires législatives, comme la loi sur la réduction de l'inflation. Il y a là un décalage.
Les sondages montrent que la plupart des Américains ne sont pas familiers avec les différentes lois axées sur l'amélioration de l'économie promulguées par le président Biden. En revanche, ils disent bien subir la forte inflation depuis plus d'un an, un problème qu'ils voient comme le plus urgent dans le pays. Ainsi, malgré tous les déplacements du président pour promouvoir le Bidenomics, ce qui compte le plus pour les Américains, c'est combien ils payent à la caisse.
Merci Jacques. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, ex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Quand on vous dit d'attendre, donc
attendez.
Go.
Attendez. 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 Attendez.
Mais ça se voit, vous avez rien compris là. Hein? Quand je vous dis d'attendre.
Attendez. Attendez.